L'instant ciné par Corinne Saunier.
Bonjour à tous et bonne année 2023. Aujourd'hui, pour ce premier numéro de l'année, nous allons parler d'un film de Noël pas tout à fait comme les autres. À l'heure où d'innombrables fictions de Noël, toutes plus lisses et insipides les unes que les autres, ont envahi les chaînes de télévision, et malgré une tentative notable d'échapper à toute cette mièvrerie par Daniel Thompson avec, en 1999, son film La Bûche, au casting soigné et alléchant, Charlotte Rampling, Emmanuel Béard, Christopher Thompson, Sabine Azéma et tant d'autres, il fallait pour cette nouvelle année un film pour survivre à la magie de Noël. Quand on sait que des sondages depuis des années hissent ex aequo en première source de stress des Français Noël et les déménagements, il fallait qu'un cinéaste s'attache à montrer, à la fois dans une tension dramatique absolue et un éclat de rire et de vie salvateur, l'envers du décor de Noël et de sa célébration, qui bien souvent réactive les non-dits et les ressentiments familiaux. Un conte de Noël d'Arnaud Desplechin, sorti en 2008, remplit cette fonction cathartique. L'appellation de conte, par-delà une certaine ironie, renvoie précisément aux interactions familiales et surtout à la place, concrète mais aussi symbolique, que chacun occupe au sein d'une structure familiale. Et de place, il n'est d'une certaine façon question que de cela dans cette œuvre. À commencer pour le personnage d'Henri, interprété par Mathieu Amalric, à la fois paria, bouc émissaire, sauveur biologique en dernière instance de sa mère, après avoir été conçu pour sauver sans succès par le passé un frère aîné, Joseph, dont il n'a pas été un donneur compatible, pour le guérir d'un lymphome nécessitant une greffe de moelle osseuse. Henri avait été banni de la famille par sa sœur Elisabeth, Anne Consigny, en échange du paiement de ses dettes, qui aurait pu conduire Henri en prison. Mais la dette financière ne masquait-elle pas d'emblée et maladroitement une dette symbolique de Henri, qui n'a pas pu être l'enfant médicament escompté? Cette condamnation à l'exil sonne comme le châtiment auquel sont soumis certains membres de familles maudites mythiques, tels un Oedipe ou un Oreste, parmi cette bourgeoisie de Roubaix, transformée en Atride ou en Thébaïde, Henri est condamné à errer loin des siens.
La maison n'est la teinturée. J'ai une solution, Henri. Tu pourrais sortir un moment?
Bien sûr.
Voilà trois traites. Ma cliente avance le remboursement de l'intégralité des dettes du prévenu.
Papa, j'ai mis une condition. Je ne veux plus voir mon frère et je ne veux plus qu'il m'adresse la parole. Jamais. Plus de visites, ni de ses cadeaux surprises. Je veux plus qu'il voie mon fils non plus, je veux plus qu'il voie personne de la famille.
On ne saurait faire une chose pareille, ma chérie. Vous êtes mes enfants.
Bien entendu, tu fais ce que tu veux avec Henri. Mais je ne veux plus jamais être obligée, moi, de le supporter. Ni chez toi, ni chez Yvan, Simon, ni au restaurant ou en vacances. Nulle part.
Ce que vous demandez à mon client n'est pas raisonnable. Écoutez, je suis commis d'office...
Mes clients demandaient seulement le recouvrement des créances.
Madame, vos vies privées ne sauraient faire l'objet d'une décision de justice.
Si je me rends où que ce soit, Henri n'y sera pas. Où je serai, Henri ne fera plus partie de la famille.
Mais désormais, pour sauver Junon, la matriarche, au prénom mythologique précisément, et qui souffre maintenant elle aussi d'un lymphome, comme le fils disparu, Henri est devenu une pièce maîtresse du puzzle familial et exige sa réintégration, et rien moins qu'au réveillon de Noël. Il arrive, prêt à tout secouer, à déranger autant que possible, pour obtenir ne serait-ce que quelques miettes de pardon pour son bannissement, parce qu'il souffre, certes, mais surtout parce qu'il est le plus vivant d'entre eux. Homme debout, révolté, dans cette famille où tout le monde couve un mal-être profond, comme si une pathologie familiale traversait tout le clan. Elisabeth, qui élève seule un adolescent vraisemblablement autiste, passe son temps à pleurer et affiche une tristesse permanente et inconsolable qui alimente sa psychanalyse. Le père de son fils, brillant mathématicien, Hippolyte Girardot, sans cesse en déplacement, leur accorde peu de temps. Yvan, alias Melville Poupeau, semble lui aussi très fragile psychologiquement, mu comme un besoin vital, quoique impossible à satisfaire, que toute la famille s'aime et vive ce Noël dans la communion. Yvan devait être l'enfant du bonheur retrouvé, celui qui remplace Joseph. À l'évidence, cette tâche l'écrase depuis toujours. Simon, le cousin orphelin, considéré comme un frère par Yvan et sa fratrie, secrètement amoureux depuis toujours de Sylvia, l'épouse d'Yvan, ne va pas mieux et soigne son chagrin dans l'alcool. Tous sont comme aimantés par Henri, à commencer par son neveu autiste Paul qui le suit partout. C'est même Paul qui a demandé à Henri de venir pour Noël, sentant que lui seul avait les réponses à toutes les questions qui le font aller mal. Henri, au fond parce qu'il en a été privé, est sans doute celui qui aime le plus sa famille et qui, paradoxalement, la connaît le mieux. Il est le seul capable de les voir tous tels qu'ils sont vraiment, en vraie fausse pièce rapportée qu'il est. Et il n'hésite pas à leur tendre le miroir de leur laideur, à les mettre face à eux-mêmes. Mais parce que d'une certaine façon, il veut les sauver, tous, même avec perte et fracas, comme par exemple quand il prend la défense d'Élisabeth, pourtant à l'origine de sa disgrâce familiale, tout en l'accablant, elle et son époux, ce qui lui vaut de se faire casser la figure par ce dernier. Élisabeth ira même jusqu'à jouer les infirmières pour Henri en lui désinfectant ses plaies et en lui appliquant des pansements, geste symboliquement si réparateur pour Henri.
Élisabeth, tu as un vrai problème relationnel. En tout cas, ça fout la merde à table, hein. Soyons objectifs. Tu n'as pas un mot gentil pour mes compagnes. Moi, je fus mis à la porte. Ah si, si, mon cœur. Tu fais pleurer Junon. Et tu t'es entiché stupidement, trop jeune, d'un homme qui ne cesse de fuir son foyer. Et après, vous faites cet enfant. Et j'apprends par Yvan que même avec...
Ferme ta gueule, je suis là.
Oui, je sais, mais toi, tu comptes pas. Et j'apprends... Oh
Lâche-moi.
Dans ce type d'échange, on peut se souvenir à quel point Desplechin est un cinéaste de la parole. On retrouve notamment ici sa passion pour le théâtre d'Ibsen, et plus précisément les morceaux de bravoure de la parole, ainsi qu'on pourrait les appeler, morceaux de bravoure dans tous les sens du terme, car celui qui ose parler prend tous les risques, mais le fait parce que son honnêteté et son humanité lui imposent de faire ainsi. On peut se souvenir, dans « Roi et reine », autre film de Desplechin, de la magnifique discussion d'Ismaël avec un jeune garçon dont la mère, Nora, voudrait qu'Ismaël devienne le père adoptif. La discussion a lieu au musée de l'homme et atteint le sommet de la grâce, de la simplicité et de la bonté. Car malgré ses failles, Ismaël est un être profondément humain et poignant, qui porte en lui une pureté. On retrouve le même type de relation entre Henri et son neveu Paul. Paul sait que Henri est le seul membre de la famille qui ne va ni le balader, ni le ménager parce qu'il est malade. Et c'est exactement ce qu'il veut, car là se joue sa dignité.
Je t'accompagne pour t'aider.
Mais j'ai pas besoin que tu m'aides, mon chéri. Ouais, viens.
Je voulais te dire merci.
De quoi ? Ah, pour les cadeaux, je n'ai encore rien acheté. Puis je ne savais pas ce que tu aimais bien.
Donc... Non, je voulais te dire merci, c'est moi. Je devais donner ma moelle et c'est toi qui le fais.
Ah ?
C'est ma mère et mon père qui veulent pas que je fasse la greffe.
Mais c'est très bien. Non, c'est ma maman, alors c'est mon affaire. S'il arrivait une chose désagréable à ta mère, c'est toi qui lui donnerais, non?
Oui.
Mais là, ça arrive à ma mère, donc tu n'as pas à me dire merci.
J'avais pas peur d'avoir mal.
Je m'en fiche.
Ouais, j'avais pas peur.
Hé, tu n'as échoué en rien.
Et on va déranger Anatole.
Henri, j'ai 16 ans.
Pas de véritable dénouement possible au sein d'un nœud de vipère aussi entremêlé. Juste quelques éclairs de lumière, comme si Henri avait ramené la vie parmi tous ces êtres moribonds. Sylvia, notamment, découvre que Simon, qu'il a toujours aimé, a renoncé à elle à la suite d'un pacte entre les hommes de la fratrie, qui ont estimé qu'Yvan étant le plus fragile, c'était lui qui devait s'unir à Sylvia, car il n'aurait pas survécu à leur rupture. Ce qui donne encore lieu à une de ces fausses scènes d'agone, vraie scène de délivrance, dont Desplechin a le secret.
Ce soir, Rosemée m'a raconté que tu avais renoncé à moi.
Qu'est-ce que t'as dit, Rosemée ?
Ça s'est passé quand ?
Je sais pas de quoi parles-tu.
Je veux les détails. Rosemée a parlé d'une décision que vous avez prise à trois. Dis-moi où et quand. C'était ici ?
C'était aux vacances de Pâques en 91. À la salle des fêtes de Croix dans les vestiaires. Et toi, tu étais dans la salle.
Je m'en souviens. Yvan, il est au courant ?
C'est trop vieux tout ça.
Non, je te demande si Yvan était avec vous au vestiaire, ou si Henri et toi, vous avez décidé de notre sort dans son dos.
Non, Yvan était là.
Qu'est-ce que vous avez dit ?
Henri et moi, nous parlions de toi, nous. Des trucs de garçon mat à mort. Yvan parlait peu, il souriait. Puis il a dit, si je n'ai pas cette fille, je ne m'en remettrai jamais.
Qu'est-ce que tu as répondu ?
Je sais plus. Elle est bien pour toi.
Non, le mot. Le mot.
J'ai dû dire, prends-la, je te la donne.
Mais on me donne pas. Je suis pas un chameau ou une chèvre.
Je te donne à personne. J'avais 27 ans, j'étais un imbécile. J'étais creux, je suis un homme creux.
Est-ce que tu m'aimais ?
Oui.
Est-ce que tu m'aimes ?
Oui.
T'es une ordure ?
Non.
Tu fais comme si t'étais pas dans le jeu, mais tu es dans le jeu. La preuve, c'est que tu as choisi à ma place.
J'avais raison, Yvan t'aimait infiniment.
Non, c'est ton amour qui était infini. Tu as joué à ma place et tu as triché. Maintenant, je ne saurai jamais rien de ma vie. C'est pas ma vie. Tu m'as enlevé le droit de te préférer Yvan.
Henri était là aussi.
Henri, c'est pas pareil. Parce que toi, tu m'aimes à fond. Henri, il voulait juste coucher avec moi, il l'a fait. Depuis 10 ans, t'as aucune vie. T'es minable dans ton atelier. Tu parles pas. Tu es triste. Chez nous ou ici, tu passais dimanche à faire la vaisselle, à me regarder en cachette et fuir mes enfants. T'es un échec monumental accroché au vieillard pour ne pas couler. Tu t'es jamais remis qu'on soit pas ensemble.
Cette explication débouche sur une scène d'amour à la fois drôle et enfantine entre Sylvia et Simon, dans une voiture, la buée et le givre sur les vitres faisant office de paravent. Henri, grâce à une grève de moelle, car il était donneur compatible, sauve sa mère et expie par là même le péché originel de ne pas avoir pu sauver le frère aîné. Mais c'est pour mieux tomber dans le néant de l'ingratitude familiale. Il n'aura jamais existé pour lui-même. La symbolique du rideau de plastique qui, à l'hôpital, sépare son lit de celui de Junon, est terrible. Dès qu'Henri a dispensé ses bienfaits, il faut se prémunir contre lui. Jamais il ne quittera le statut, si pratique pour les autres, de souillure qui a plongé la cité dans le malheur. Il demeurera le corps étranger rejeté par un organisme familial qui, sans lui, a l'illusion de son asepsie, de sa viabilité. Mais quelque chose de lui vit en Junon, et c'est comme si cela le replaçait sur un pied d'égalité avec celle qui lui a donné la vie. Dès lors, bien qu'Henri, Henri devient une figure héroïque. Il sera beaucoup plus difficile de le traiter en simple paria. Par ce don, il peuplera différemment, d'une façon plus complexe, donc plus juste, l'inconscient et la mythologie familiaux. Une réparation quoique imparfaite, quoique partielle, est tout de même possible pour lui. Et c'est déjà beaucoup au vu de l'ampleur de la catastrophe initiale. Un conte de Noël est un film où, malgré toutes les vicissitudes de l'existence et du passé en famille, la vie l'emporte et même les cloaques finissent par être traversées par un nerf vivifiant. Vivre quand même, telle semble être la devise de ce cinéaste. À bientôt et surtout, n'oubliez pas d'aller au cinéma.